Voilà, ce matin, j'aimerais vraiment qu'ensemble, on puisse se pencher sur quelque chose qui nous intéresse tous. Je ne sais pas si en faisant un sondage ce matin, il y a quelqu'un qui me dirait « Ah non, moi je ne veux pas avoir une belle vie ». Vous savez, de plus en plus, même les études, hein, dans le domaine psychologique, domaine sociétal, montrent de plus en plus que les gens peuvent réussir dans la vie, mais pas réussir leur vie. Les gens peuvent réussir dans la vie, et vous avez certainement des exemples qui vous viennent comme ça à l'esprit. Vous dites, ah ben tiens, mais oui, ah mais mon voisin, il a des voitures de sport, les Lamborghini, les Porsche, les Ferrari, les tout, Ça dit que ça coûte cher, quoi, c'est ça que ça veut dire. Hein, toutes ces voitures, eh ben oui, mais ces vacances... elle ne coûte jamais moins de 40, 50 000 euros. Et hier, je regardais une émission. Voilà, je vous ai dit que je regarde la télé. Hein, excusez-moi, ne me lapidez pas. Et je regardais une émission. Et puis, c'était une émission où on montrait les chalets de Courchevel. Ah oui, tout le monde. Ah hein, oui, hein, ça donne envie. Hein. Et puis là, il y avait une famille qui venait d'Amérique du Sud et qui se permettait de se payer un trois pièces à 63 000 euros semaine. 63 000 euros. Je me suis dit, waouh, mon gars, t'as raté quelque chose, là. Vous voyez un peu? Si on n'a pas sa tête sur les épaules, ben, on perd la boule tout de suite. Hein. Je peux vous dire, 63 000 euros. Voyez? Mais est-ce que le bonheur est dans ça? Oh, un tout petit peu quand même, mais c'est éphémère. Dans le coup, voilà, ils vont passer vacances, ils vont avoir des trucs super, la neige, parce qu'ils payent aussi pour la neige, vous savez. À Courchevel, la neige n'est pas comme partout en France. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est une neige particulière. Et là, je me suis dit, waouh. Mais béni soit Dieu, on ne va pas envier les riches. On ne va pas envier les pauvres non plus. Et ce matin, j'aimerais vraiment laisser sur le cœur de quelqu'un comment est-ce que Dieu s'y est pris, ce que Dieu nous dit, à nous, enfants de Dieu, peut-être aux amis qui nous visitent ce matin, qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu et qui s'approchent là, à l'écoute du message de l'Évangile. Eh bien oui, c'est déjà un bon commencement, c'est un bon début. Comment, qu'est-ce que Dieu a mis en place, qu'est-ce que Dieu nous donne comme clé, comme principe pour pouvoir réussir notre vie? Quels sont les principes bibliques pour une vie abondante? Nous tous, on aimerait avoir une vie abondante. C'est étonnant, vous savez. Ouais, les choux-fleurs, c'est pour vous rappeler que il faut y aller mollo. Parce que ça rigole pas, ça. Oh, il y a Jean qui est là. Il est là, Jean? Van Gansbeek? Il est là? Il sait ce que c'est, les choux. Il suffit de venir un peu plus du nord, un peu de l'est. Comment vivre une vie abondante? C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi, étant devenu enfant de Dieu, pour la plupart d'entre nous, les choses ne se passent pas comme un long fleuve tranquille? Vous savez, un jour, j'ai été... Il y a un chrétien dans une église qui est venu me voir à la fin du culte pour me parler un tout petit peu. Et ce chrétien, à l'époque, il y a quelques années en arrière, était âgé de 84 ans. Et cela faisait seulement à peu près 2 ans qu'il était converti et baptisé. Et il est venu me voir, il me fait, ben, Ulrich, j'aimerais vous poser une question. Bon, en général, à la fin du culte, une question, ça suffit, hein. Une deuxième, on réfléchit. Je dis, ben oui, frère, pourquoi pas, une question, ça me va. Et puis là, il me demande, il me dit, ben, moi, je suis récemment divorcé, je paye une pension alimentaire à mon épouse, et on a des relations hyper compliquées. Je ne sais pas, depuis qu'on est divorcé, même avant, on comprend un peu pourquoi ils ont divorcé. Et il me dit ça, il me dit, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi depuis que je suis devenu chrétien, ces choses-là ne s'améliorent pas. Et oui, c'est des questions que parfois on se pose. On se dit, mais oui, mais quand on devient chrétien, on se dit, ça y est, la vie est un long fleuve tranquille. Maintenant, je suis du côté des bons. Les méchants, c'est eux qui vont désormais galérer. Moi, j'ai quitté le côté des méchants. Je suis dans le côté des bons. Désormais, la vie est pépère. Ah ben non, vous avez remarqué, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. En tout cas, si vous allez à une conférence, à un endroit où il y a un prédicateur qui vous promet cela, prenez vos clics et vos claques. Ça, c'est un faux évangile, comme disait l'apôtre Paul, pour d'autres choses, bien évidemment. Pourquoi, une fois devenus chrétiens, sommes-nous encore confrontés au même chagrin que les non-chrétiens? Et pour essayer justement d'avoir une vie à peu près normale, vous savez ce que les chrétiens font? Ils prient en général pour tout. Parce que c'est quand même plus simple pour nous de prier et de demander à Dieu. Et comme ça, on se dit, ah mais moi, ça fait 20 ans que je prie, mais Dieu ne m'a pas répondu. J'attends toujours la réponse de Dieu. Et quelquefois, nous prions sans tenir même compte des principes qui sont dans la parole de Dieu. Quand vous allez rentrer chez vous ce midi, non, je dis quoi ? Cet après-midi plutôt. Quand vous allez rentrer chez vous, la première chose que vous allez faire, c'est quoi ? Devant la porte de votre appartement, de votre maison. C'est d'ouvrir la porte, oui ou non ? Vous avez besoin d'une clé. Et là, je peux vous dire que si vous l'avez égarée, Dieu peut vous aider à la retrouver. Mais ne vous attendez pas à ce que la clé se retrouve dans votre sac. Hein. Quand il fait nuit, on n'a pas besoin de prier. Il y a juste besoin d'appuyer sur l'interrupteur et la lumière. Ce sont des principes, ce sont des choses. Et la Bible est remplie de ça. Et étonnamment, les chrétiens choisissent de prier parce que pour eux, c'est peut-être difficile juste de faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est tout. Et à cause de cela, parce que la vie peut sembler compliquée, difficile, eh bien nous sommes devenus des hommes et des femmes complètement passifs, des hommes et des femmes complètement, résignés. On se dit, ben oui, moi j'attends quand je serai au ciel. Frères et sœurs, au ciel, on vous dit que vous n'allez même plus vous rendre compte que la souffrance existe. Il n'y a rien de tel qui existe au ciel. La vie chrétienne, elle se vit sur la terre, elle ne se vit pas au ciel. Le salut ne se vit pas au ciel, le salut se vit sur la terre. Le ciel, c'est une conséquence de la terre, c'est une conséquence. Si nous allons auprès de Dieu, c'est parce que nous l'avons accepté sur... Si tu ne l'acceptes pas sur la terre, c'est pas possible que tu ailles auprès de lui. Si nous sommes sauvés, c'est parce que nous avons accepté le Sauveur sur la... Le salut, c'est pour la terre. Et aller au ciel n'est qu'une conséquence, ou du moins la conséquence. Alors comment faire avec toutes ces choses? Nous sommes chrétiens, mais nous avons les mêmes chagrins. Le deuil nous frappe, la séparation, toutes les choses qu'on peut vivre, elles nous frappent. Comme elles frappent, bien évidemment, ceux et celles qui ne sont pas chrétiens. Et là on se pose des questions, on se dit, mais comment est-ce que cette vie que Dieu nous promet dans la parole de Dieu n'est pas manifestée? Comment est-ce que nous ne pouvons pas être au bénéfice de cette vie? Et c'est ce que je vais essayer de regarder avec vous ce matin. Pour cela, on va lire un premier texte dans le livre de Josué. Vous connaissez Josué? Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, avec tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. La mort... je continue sur autre chose là. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse, votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tous les pays de Zitite et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne tiendra, ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et Dieu continue. Il lui dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir où que tu... C'est fort, ça. Hein? Et il poursuit. C'est Dieu qui est en train de parler à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Voici ce que Dieu dit à Josué. Il y a quelque chose qui va arriver au milieu du peuple d'Israël. C'est un peuple que Dieu a sorti de façon majestueuse d'Égypte, que Dieu a libéré. Hein. Les commentateurs de la Bible disent que c'est l'image du salut de ce peuple qui est en Égypte, qui est délivré, vous savez, justement de l'esclavage, qui va marcher dans le désert, non sans difficulté, bien sûr. Ah oui! Vous imaginez un peu, si ça avait été le peuple d'un autre que celui de Dieu, ça aurait été difficile. Hein? Il l'aurait abandonné. Vu l'attitude que manifestait le peuple vis-à-vis de son puissant sauveur et vis-à-vis du représentant du puissant sauveur qui était Moïse. Et là, ce peuple va mettre plus de temps dans le désert que Dieu n'avait prévu. Et là, Moïse va venir à mourir à cause même de ce peuple. Parce qu'il va le mettre, il va vraiment charger Moïse, il va amener Moïse à commettre quelque chose qu'il ne devait pas commettre vis-à-vis de Dieu, alors que Dieu lui demande de frapper une fois le rocher pour que l'eau en sorte et que le peuple puisse boire et être abreuvé. Moïse, dans sa colère, tellement le peuple n'arrêtait pas de murmurer contre lui, de vouloir le lapider à mort, Moïse va frapper deux fois et Dieu va dire à Moïse, tu as beau être un ami. Il y a des choses qu'on ne fait pas avec moi. J'ai dit à tout ce peuple que tu es un ami, que je te parle sans énigme, que je te parle bouche à bouche. C'est le terme qui est employé dans la Bible. Hein. Devant une représentation de l'Éternel, c'est ce que Dieu va dire. Mais quand Moïse va frapper deux fois le rocher, Dieu va dire non. Il va dire, viens sur le mont, une montagne, je vais te montrer le pays que le peuple va occuper prochainement. Mais toi, tu ne vas pas y entrer. Et Moïse va finir sa course sur cette montagne. Et dans la vallée, le peuple va pleurer pendant 30 jours, va vivre un deuil, parce qu'ils étaient bien évidemment, ils avaient beau charger Moïse, ils étaient quand même attachés à Moïse. Et là, ils vont vraiment vivre un deuil de 30 jours. Et Josué, qui avait l'habitude d'accompagner Moïse, même à l'attente de la rencontre avec Dieu, certainement il va se réfugier là et Dieu va lui parler. Dieu va lui dire, écoute Josué, plutôt que de pleurer sur ton sort, plutôt que de regarder à Moïse, je vais t'apprendre pourquoi est-ce que Moïse a réussi. Je vais te montrer quel est le secret, quels sont les principes auxquels Moïse était attaché pour réussir sa mission. La mort, c'est quelque chose qui peut marquer la mort peut marquer la fin d'une chose. Mais elle marque aussi le commencement d'une autre. C'est normal que Josué en soit frappé. Josué était habitué à Moïse. Josué suivait Moïse partout. Josué recevait des instructions de Moïse, lui qui était le chef de l'armée du peuple d'Israël. Il était sous les ordres de Moïse, parce que c'est Moïse qui avait des conversations avec Dieu, c'est Moïse qui se tenait devant Dieu, qui recevait les instructions de Dieu et qui les faisait appliquer par le peuple. Et là, Moïse vient à mourir. Il y a un désarroi au milieu du peuple, encore plus pour Josué, qui lui était habitué à son maître, était habitué à son leader. Et là, Josué ne sait plus quoi faire, il est paniqué, il est épouvanté, il est effrayé. Il est dépassé par la situation. Et dans cette même configuration, c'est alors que Dieu va venir lui parler pour lui dire, Josué, malgré la faiblesse que tu éprouves en ce moment, malgré tout ce que tu vis en ce moment, c'est toi que je veux utiliser. C'est étonnant. Alors que les chrétiens, en général, ils ont envie d'être utilisés par Dieu. Ah non, là, je me sens bien. Ah oui, mais si tu te sens bien, tu n'as plus besoin de Dieu. Eh bien oui, souvent on dit non, là, non, je ne suis pas bien. Non, Dieu n'a pas besoin que tu sois bien. Dieu a juste besoin que tu sois disposé. Eh bien oui, qu'est-ce que vous croyez? On peut être pasteur. Eh bien oui, parfois on a des moments où on est comme ça. Et il y a des moments aussi où on est comme ça, on est des êtres humains. Même si vous croyez que je dévalorise la fonction de pasteur, mais moi je vous le dis, parce que moi je suis un être humain. Eh bien oui, si vous avez mis le pasteur trop là, eh bien désolé, il va falloir le remettre là. Eh bien oui! Celui qu'il faut mettre là, c'est qui? Eh bien voilà, vous avez tout compris. Ulrich, vous le mettez sous les pieds de Jésus. C'est là ma place. Et j'aime les pieds de Jésus. J'aime être aux pieds de Jésus. J'aime quand mon regard part d'en bas pour en haut. Mais j'aime pas quand mes yeux regardent face à face le Seigneur. Non, j'aime quand mon regard part comme ça. Parce que je reconnais ma place. Parce que je reconnais ce que je suis. Parce que je reconnais ce que lui a fait de moi. Parce que je sais que dans ma faiblesse, il va se servir de moi. C'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je puis tout par celui qui me fortifie. Josué, lève-toi maintenant. Il y a le now, maintenant. Ça veut dire que le passé est passé. Maintenant, c'est une nouvelle saison. On peut être confronté aux transitions. Elles peuvent être difficiles, frères et sœurs. Mais Dieu nous dit, il y a des clés pour réussir non seulement notre vie, mais aussi la mission qu'il nous confie. Les transitions ne sont jamais simples. Il faut voir que dans le texte, du moins dans ce que Dieu dit à Josué, mais Dieu définit les contours de la bénédiction. Dieu lui dit, voici le pays que tu vas faire prendre en possession le peuple d'Israël. Il définit. Il donne les limites. Il dit, le pays commence à un point A, tu fais le tour, tu reviens je ne sais pas à quel point. Il dit, c'est ce que Dieu définit clairement. Donc il y a bien une définition et Dieu l'avait déjà dit à Moïse. Par ailleurs, il a dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ça dit, il y a l'abondance dans ce pays. Et même aujourd'hui encore, moi qui suis un fervent consommateur des clémentines d'Israël, je peux vous dire. Je peux vous dire, frères et sœurs, que la Bible dit vrai. Le fruit qui vient de ce pays est bon. Ceux qui sont allés en Israël peuvent le confirmer. C'est étonnant. Ce n'est pas un pays qui est boisé, ce n'est pas un pays qui est rempli de forêts. Non, mais pourtant, ce pays en sort de ce pays, il en sort des fruits, mais... C'est étonnant. Dieu dit, voici le pays que je vous donne. Josué, je te dis maintenant de rentrer dans ce pays. Et nous, comment nous faisons? Regardez, Dieu a sauvé ce pays. Mais Dieu a un avenir pour ce peuple. Pardon, il a sauvé ce peuple pour lui donner un avenir. Mais nous, les chrétiens, une fois que nous sommes sauvés au 21e siècle, on a envie de vivre notre vie comme on veut. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Tu vas te casser la figure à chaque fois. Comme tu n'en as qu'une, mais tu vas te bosseler de partout. C'est ça le problème que nous avons, frères et sœurs. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous vivions notre vie à notre manière. Non, ça c'est le faux christianisme du 21e siècle. C'est le mensonge satanique. C'est le mensonge de la religion. Dieu nous a sauvés pour que nous dépendions de lui jour et nuit, tout le temps. C'est le but, c'est comme ça que Dieu a créé l'homme pour que l'homme dépende de lui. Et Dieu est venu nous sauver pour nous ramener à lui pour que nous vivions toujours dans cette configuration. Non pas que nous vivions comme nous avons envie. Et l'écueil de grand nombre de chrétiens, c'est de vouloir dire, maintenant je suis baptisé, je suis confirmé, je vais aller au ciel. Mais tu iras au ciel, mais le problème c'est que sur la terre, tu ne vivras jamais une vie abondante. Oui. Et même pour aller au ciel, la Bible te dit que tu seras sauvé comme à travers le feu. Frères et sœurs, Dieu sait, c'est Dieu qui a sauvé le peuple d'Israël. Alors, est-ce que vous croyez que Dieu, en sauvant ce peuple, allait l'abandonner dans le désert en disant, « Bon, les gars, maintenant, moi, je suis venu faire mon job, je vous ai débarrassé de Pharaon, ah, maintenant, vous vous débrouillez, hein. Vous faites comme vous avez envie. » Voilà, vous êtes dans le désert, si vous trouvez un chemin pour aller où vous voulez, vous y allez, vous constituez un peuple, une nation, ce que vous voulez. Non! Dieu nous sauve pour nous donner un avenir. Parce qu'il dit que même avant que nous soyons venus au monde, il avait déjà préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Et le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne savent pas ce à quoi Dieu les appelle. Vous êtes comme des corps étrangers dans le corps de Christ. Et c'est dommage. 3 ans après ma conversion, j'avais touché le plafond. J'étais complètement assoiffé, desséché. J'étais là, je ne comprenais rien, je dis, mais Seigneur, eh bien oui, était passée la période de l'enfance. Il y a des choses, je disais, mais Seigneur, moi, je ne vois plus clair. Quand je prie, je faisais les choses de la même manière et ça ne marchait plus. Je dis, mais dis donc, Dieu est parti alors. Hein. Il a pris la comète, il est retourné, quoi. Et je ne comprenais rien, je dis, mais c'est quoi? Mais en même temps que je vivais vraiment cette sécheresse, ce désert, il avait une soif en moi et je ne savais pas comment l'étancher. Et Dieu me dit, mais écoute mon enfant, tu aimes la prière, mais tu n'aimes pas ma parole autant que tu dois l'aimer. Et Dieu a commencé par me dire, plonge tes regards dans ma parole, parce que ma parole va te redonner la joie du salut. La prière ne donne pas la joie du salut. Je me suis plongé dans la parole de Dieu. C'est là que j'ai découvert les merveilles de la présence de Dieu, de la parole de Dieu. Parce qu'à un moment, vous savez, on est tous un peu pareils. Je me suis dit, ben oui, mais moi je suis converti, maintenant ça y est, ah, je vais marcher par moi-même. J'étais là, en général, le samedi, parce que toute la semaine j'étais occupé, mais le samedi je faisais mes petits projets dans la tête. Hein. Je vais faire comme ça, bon, dès que j'ai fini, je rentre au Gabon, après, au bout de 2 ans, je suis ministre. Vous savez, des fois quand je vois, même les amis, j'ai des amis de longue date qui se plaignent, qui disent, mais qu'est-ce que tu es allé faire dedans? J'ai dit, si moi-même je savais. J'ai dit, j'ai jamais, non, quand je suis arrivé en France, j'ai jamais dit, bon moi je vais en France, il faut que je découvre ce Dieu-là. Non, il m'attendait. Il disait, fais tout ce que tu as fait, mais mon gars, il y a un temps pour tout, tu verras, je vais t'arrêter. Non, les choses se sont faites, mais vraiment, mais sans bruit, sans artifice, sans rien. Pourquoi? Parce que Dieu est venu me chercher tout comme il allait chercher ce peuple en Égypte. Il m'a délivré. Mais non pas que je vive ma vie comme j'ai envie. Non, pour vivre sa vie. C'est pour ça que la Bible nous dit, mais écoutez, la Bible nous dit que Dieu nous a aimés, oui ou non? Il nous a donné son Fils afin que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie. Bon, la vie éternelle, c'est la vie de qui? C'est la vie de Dieu. Est-ce que toi et moi, on peut vivre par nous-mêmes la vie éternelle? Ce n'est pas possible. On va bricoler une vie. Donc, Dieu est celui qui établit toute chose. Il sauve le peuple, il lui dit, voici l'avenir que j'ai pour toi. Il dit au peuple d'Israël, je veux te donner Canaan. Canaan, c'est un pays où coule le lait ou le miel. C'est un pays d'abondance. C'est un pays où tu seras heureux. C'est un pays où tu vas vivre pleinement ce que tu es entre mes mains. Le peuple de Dieu. Et il va dire à Josué, maintenant c'est toi qui dois amener le pays, le peuple dans ce pays que j'ai promis de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage. Mais pourquoi a-t-il besoin de la force et du courage? C'est quand même étonnant. Vous imaginez un peu, hein, Ulrich, en s'adressant au chef des armées, comment, le chef d'état-major des armées. Il dit, mais chef d'état-major, fortifiez-vous et ayez bon courage. Il va me répondre, mais jeune homme, il n'y a que ça que je fais dans ma vie. C'est d'être fort et d'être courageux. Sinon, comment est-ce que je pourrais diriger toute l'armée de ce pays? Mais Josué était le chef de l'armée. Il était le chef de l'armée d'Israël. Mais c'est à lui que Dieu va demander de prendre, d'être fort et d'avoir le courage. Mais quelle est la force et le courage que Dieu demande à Josué d'avoir? Ce n'est pas le courage basé sur nos émotions, basé sur nos sentiments, basé sur notre expérience. Si ce n'était que sur l'expérience, Josué en avait, je peux vous dire. Depuis Amalek, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent, c'était lui qui menait les combats pour Israël. Donc Josué était un homme courageux naturellement, Josué était un homme fort, vaillant par son métier. Mais Dieu lui dit, il faut que tu aies la force et le courage du Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas la force et le courage du Saint-Esprit, la tâche devant laquelle, la tâche qui est face à toi, qui est devant toi, tu ne pourras pas l'assumer. Et vous rappelez bien ce texte, hein, dans 2 Timothée. Hein. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Parce que l'Esprit vient nous aider là où nous sommes faibles. L'Esprit vient nous porter là où nous sommes faibles. Il vient nous aider à nous rappeler qui est Dieu pour nous. Il vient nous aider à nous rappeler qui est celui qui nous a fait la promesse, qui est celui qui nous conduit. Mais si nous oublions ces choses, il est fort probable que nous ne soyons pas des hommes et des femmes qui arrivent jusqu'au bout. Parce que Josué est abattu. Dieu dit, il faut que tu aies la force du Saint-Esprit. Il faut que tu aies le courage du Saint-Esprit. Josué est épouvanté, il est effrayé. Il a peur, il se dit, mais c'est une grande mission. Il avait l'habitude de voir Moïse opérer. Il était certainement admiratif de Moïse. Mais Dieu va lui dire, écoute Josué, il y a deux choses principales que tu dois savoir. Ce sont ces principes. Le premier principe, c'est quoi? C'est que je serai avec toi comme j'ai été avec. Pour avoir une vie abondante, frères et sœurs, chers amis. Nous devons être conscients que Dieu est avec nous. Et Xavier, en priant, en introduisant ce culte, sa prière d'introduction, il disait, « Tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin. » Oui, mais combien de fois est-ce que nous sommes conscients de cette parole? Quelquefois, nous le disons. Mais est-ce que quand Jésus nous dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, est-ce que nous sommes conscients que c'est une vérité? Je vous dis une vérité parce que si je vous dis une réalité, vous allez m'amener sur le terrain rationnel. Vous allez me dire, mais tu le vois où? C'est pour ça que je vous dis, c'est une vérité. Je suis avec vous. Et vous savez à quelle occasion Jésus a dit aux disciples qu'il était avec eux? Mais ils n'étaient pas loin de la situation de Josué. Hein? Ils étaient abattus. Jésus avait beau être ressuscité, les disciples étaient abattus. Ils étaient inquiets pour la suite. Il se disait, mais notre champion n'est plus. Tout comme Josué se disait, mais mon champion, mon Moïse n'est plus. Les disciples se disaient, mais Jésus n'est plus. Mais comment on va faire? Jésus va leur dire, mais écoutez, il faut que vous sachiez une chose. Si je ne peux plus être avec vous physiquement, je reviendrai comme le Saint-Esprit pour être en vous et avec vous. Et en ce moment-là, je ne serai plus limité à un seul endroit de la terre. Je serai dans tous ceux et toutes celles qui vont m'accepter comme leur sauveur et leur Seigneur. Dieu tient compte des situations que nous vivons. C'est vrai. Il tient compte de notre faiblesse. Mais Dieu sait que même dans notre faiblesse, même dans notre pire faiblesse, Dieu est capable de nous utiliser. Dieu est capable, tout comme il a dit à un jeune qui a dit à Dieu, « Oh, mais tu sais, tu es venu faire une mauvaise pioche. » Parce que si tu étais Dieu, tu aurais su que moi, Gédéon, ma famille est insignifiante. Je suis petit, je ne suis rien du tout. Et Dieu l'appelle vaillant héros. C'est étonnant ça. Mais vous croyez que quand Dieu appelle Gédéon vaillant héros, c'est parce qu'il était naturellement vaillant héros? Non! Naturellement, il était vaillant zéro. Mais avec Dieu à ses côtés, il devient vaillant héros. C'est ça la différence. C'est pour ça que la Bible dit, avec Dieu nous ferons des... C'est cela! Josué croyait, il pensait que c'est par lui-même que Dieu l'allait envoyer. Non, quand Dieu nous envoie, il s'assure d'être avec nous pour être avec nous sur le chemin. C'est pour cette raison qu'il dit à Josué, lève-toi. Josué devait être là, Moïse, tu es où? Moïse est parti. Et quelquefois, nous sommes dans le fantôme du passé. On est là, moi j'aime bien quand on me dit, tel nous avait dit, tel autre nous avait dit. Et aujourd'hui, que te dit Dieu? Pourquoi tu vas dire Moïse? Pourquoi tu vas dire Paul? Pourquoi tu vas dire Pierre? Et aujourd'hui, est-ce que Dieu n'est plus Dieu? Il ne parle plus? Moi, un jour, j'étais dans une église. Et puis dans cette église, du moins c'est une histoire que j'ai apprise. Dans cette église, il y a un pasteur qui était resté très 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 longtemps. Et tout le monde jurait par lui. Et quand moi je suis allé une des rares fois dans cette église, je me suis dit, mais tiens, mais en fait plus personne ne parle de Jésus, quoi. On parle de ce pasteur. Je dis, c'est pas mauvais. Je dis, à la limite même, c'est dangereux parce qu'en fait, le pasteur, il parle de qui? Mais il parle de Jésus, il parle de la parole de Dieu. Moi, je suis souvent étonné d'entendre les chrétiens dire, « Ah, c'est que Ulrich a dit ceci, Xavier a dit ceci, Daniel a dit... » Mais non, c'est la parole de Dieu. Et quand je suis allé dans cette église, j'ai dit aux copains qui m'avaient invité, j'ai dit, « Écoute, je vais te dire une chose, c'est que quand ce pasteur partira, l'église aura des difficultés. » Et c'est ce qui est arrivé. Nous bénissons Dieu pour les serviteurs qui nous envoient. Nous glorifions son nom pour les hommes et les femmes qui sont au service du royaume. Mais ils ne sont qu'au service du royaume. Parce que le grand roi, c'est Jésus. Parce que le Seigneur des seigneurs, c'est Jésus. Celui qui vit au siècle des siècles, c'est Jésus. Celui qui va nous amener dans sa vie éternelle, c'est Jésus. Aucun pasteur, quoique malgré tout ce qu'il a fait, c'est fini. Il y en a un dont on a célébré des funérailles, mais à toute pompe, outre-Atlantique, c'est bien tout ça. Mais Jésus dans tout ça. La Bible nous dit que Dieu ne partage pas sa gloire. Et Jésus dans tout ça. C'est bien. On aime bien dire le ministère de tel, le ministère de tel. Oui, mais bon, on a quel ministère au fond? Quand on lit les Écritures, on n'a aucun ministère. On est juste au service de quelqu'un. Et cette personne dont on est au service, c'est Jésus. Josué, sois fort et courageux. Mais que lui dit Dieu? Il dit, ta force et ton courage ne vont pas venir de tes expériences, mais elles vont venir du fait de t'appuyer fidèlement sur la parole que Moïse t'a laissée. Ça, c'est la clé. Sur la parole que Moïse t'a laissée. Sur la parole. Pourquoi? Parce que lorsque nous ne pratiquons pas la parole, frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous enraciner dans la personne de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas connaître les plans de Dieu. Nous ne pouvons pas connaître vraiment le bonheur de Dieu. Je ne parle pas du bonheur selon ce monde ce matin, vous m'avez très bien compris. Je ne parle pas de la vie abondante, les critères ne sont pas les mêmes. Parce que vous verrez que les critères bibliques d'une vie abondante ne sont pas les mêmes que ceux qu'on peut rencontrer dans le monde, dans la société du moins. C'est pour cette raison qu'un homme appelé Jacques va écrire à ses contemporains en disant ceci. Il va dire, mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y a persévéré, celui qui n'a pas oublié, ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. C'est la même chose, ça dit que dans ses entreprises. Jacques dit, la parole ne vient pas. Juste le dimanche, on est là, on écoute. Ah oui, il a dit ceci, il a dit cela. Non, est-ce que tu la mets en pratique? Est-ce que tu la mets en pratique? Dieu te parle de deux choses. Ou du moins d'une chose qui peut nous parler à tous. Ce matin, au risque de me tromper, nous sommes peut-être passés tous devant la glace, oui ou non? Nous sommes tous passés devant la glace. Est-ce que vous savez que le miroir a une voix? Oui ou non? Quand vous regardez face au miroir, il vous dit, madame, votre coupe là, votre coiffe, vous êtes mal coiffé. Allez, faites un petit brushing. C'est le miroir qui vous parle. Vous obéissez au miroir. C'est ce que Jacques dit. Vous obéissez au miroir naturellement. Il dit, si le miroir vous renvoie votre image physique, votre image naturelle, la parole de Dieu est le miroir de votre âme. Quand la parole de Dieu te dit, mon enfant, Dieu ne prend pas plaisir à un enfant qui ne pardonne pas et que tu ne pardonnes pas, Dieu te dit, tu es un enfant insensé. C'est ça en fait. Et là, on me dit, il y a certains qui me sortent des théories comme quoi, non, il faut être prêt pour pardonner. Prêt, quand, jusqu'à quand? Dites-moi, comment? Est-ce qu'il y a un mot d'emploi pour être prêt? Non, il n'y a pas. Le pardon n'a rien à voir avec ce que nous ressentons. Le pardon n'a rien à voir avec nos émotions. Le pardon est une décision. C'est ce que Dieu a fait. Il nous a aimés, nous étions ennemis de Dieu. Il nous a aimés pour nous sauver alors que nous étions pécheurs. Le pardon, c'est une décision. C'est une volonté. si la parole de Dieu est le miroir de notre âme et qu'on ne la prenne pas au sérieux, comment voulez-vous que l'on vive une vie abondante ? Dans le Seigneur, je précise encore une fois. Comment voulez-vous que l'on vive une vie abondante dans le Seigneur ? Ce n'est tout simplement pas possible. Ce n'est pas possible. Autant le miroir naturel te montre ton visage, tu corriges tous les défauts qu'il te montre. Dieu te dit, sa parole est le miroir de ton âme pour corriger tous les défauts qu'il y a dans ton âme. C'est pour cette raison qu'il dit, ne vous bornez pas, dans la version seconde, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique. Ne vous bornez pas avec de faux raisonnements. Moi, je suis souvent surpris d'entendre les chrétiens dire, oui, mais la Bible dit ça, mais bon. Mais quoi, mon frère, ma soeur, mais quoi? Mais quoi? Un jour, Jésus était en train d'annoncer l'évangile. Il y a un groupe qui commençait à s'en aller. Et il regarde ses disciples les plus proches. Il dit, voyez-vous, que faites-vous encore là? Pierre dit, même si les paroles là sont dures, mais c'est quand même les paroles de la vie éternelle. On va rester. Même si c'est difficile de recevoir un traitement qui m'abat, qui me fatigue, mais dès lors que ce traitement va m'apporter le soulagement de ma maladie, je le prends quand même. Même si c'est difficile, nous tous, quand il nous arrive de tomber malade, nous ne faisons pas les fanfarons devant les médecins. Quand le médecin nous dit « Allez, 5 fois par jour », nous le faisons. Parce que la parole du médecin, c'est ce qui va engendrer la guérison avec le traitement qu'il nous a prescrit. Dieu dit, je n'ai pas aucun autre traitement que la parole. Parce que ma parole, je fais toutes choses avec elle. Si tu es au bénéfice de ma parole et que tu la mettes en pratique, à ce moment-là, tu vas vivre une vie chrétienne abondante. Un médecin, il fait le diagnostic, il te dit, mais vas-y, voici ce que vous avez, monsieur, madame. Il vous fait une ordonnance. Vous allez vous dire, ah ben non, je ne passe pas par la pharmacie. Je n'aime pas mon pharmacien, je n'aime pas sa tête. Et puis, je n'ai pas envie d'aller dans les pharmacies aujourd'hui. Eh ben, j'irai dans un mois et puis on verra. Mais il y a un risque, hein, c'est que votre situation s'aggrave et que plus que s'aggraver même, elle vous conduise à la mort. Est-ce que vous croyez que nous prenons les médicaments parce que nous aimons les médicaments? Et voilà. C'est pareil avec la parole de Dieu. Elle n'est pas là pour nous plaire, elle est là pour nous faire du bien selon la volonté de Dieu. Le médicament n'est pas là pour nous plaire, il est là pour nous soulager selon la recommandation du médecin. À bon entendeur. Ah oui, Dieu va insister sur l'importance de la parole. Il va dire à Josué, il y a 2 principes. Si tu veux réussir une vie chrétienne abondante, il faut que je sois avec toi et que tu prennes ma parole au sérieux. Ces 2 éléments vont engendrer le succès dans ta vie. C'est ce que Dieu dit à Josué. On va lire maintenant, pour nous qui sommes de la Nouvelle Alliance, on va faire une transition. On va lire un texte dans Jean, dans l'Évangile de Jean, chapitre 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. On va lire un autre texte d'Éphésiens à la suite. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. 2 paroles. La première, c'est celle de Jésus, qui nous dit qu'il est le bon berger, et qu'étant le bon berger, il vient pour nous assurer une vie abondante. Et quelques décennies plus tard, il y a Paul qui va donner une révélation aux chrétiens d'Éphèse en leur disant, il faut que vous sachiez une chose, c'est que quand nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes déjà bénis. Et bénis de toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. Et il va ajouter spirituel dans les lieux célestes en Christ. Eh bien oui, parce que Dieu est esprit. Ce qu'il fait d'abord en nous est esprit. Et maintenant, c'est à nous de transformer l'essai. L'essai, c'est quoi? C'est comment faire en sorte que ce qui est en nous, ce dont nous bénéficions en tant qu'héritiers, co-héritiers de Christ, héritiers de Dieu. Comment faire en sorte que nous transformions cela en quelque chose qui soit matériel dans notre vie pour nous assurer une vie chrétienne abondante? Malgré tout ce que Jésus dit, et ce que Paul répète par ailleurs, comment cela se fait-il que nous n'ayons toujours pas cette vie chrétienne abondante, que nous ne vivions pas l'abondance de la vie chrétienne? C'est qu'il y a un problème. Jésus dit qu'il est venu nous délivrer pour nous donner une vie abondante. Paul nous dit qu'en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et comment est-ce que nous vivons en tant qu'enfants de Dieu une vie qui n'est pas pleine d'abondance, l'abondance de Dieu, l'abondance de Jésus-Christ, je me répète encore une fois. Parce qu'il y a bien sûr des obstacles. Et le premier obstacle, nous n'allons pas chercher loin, c'est quand on vit dans le péché. Oh, on n'aime plus ça les chrétiens. Vous savez, dans une église, je fais une petite parenthèse, il y avait un monsieur. Alors, qui était un coureur de je ne sais pas de quoi, vous avez compris. Et c'était un chrétien. Donc, il s'amusait quelquefois avec ses conquêtes, il venait au culte, et puis il en changeait. Il venait. Et quand le prédicateur prêchait sur la sanctification, vu que c'était la conquête qui avait l'argent pour les offrandes, il disait, n'ouvre pas ton porte-monnaie, surtout pas. Parce qu'il prêchait sur la sanctification en disant, il faut vivre la sanctification de Dieu, il faut se mettre à part, il ne faut pas vivre n'importe comment dans le péché. Et lui, tout de suite, il se braquait. Il disait, oh ben non, ça, ce n'est pas un bon prédicateur. Et il disait, ferme le porte-monnaie, chérie. On ne donne pas d'offrande aujourd'hui. Il n'est pas bon, ce prédicateur. Et un autre dimanche, quand il y a un autre prédicateur, ou bien même le même, quand il se met à prêcher sur l'amour de Dieu, Dieu vous aime, il dit, ah, il a compris. Que Dieu nous aime. Donc, parce que Dieu nous aime, on doit faire comme on a envie. Et là, il dit à sa femme, ouvre les vannes, donne tout ce que tu as dedans. Non, je vous dis, hein, c'est authentique ce que je vous raconte là. Parce qu'à chaque fois que le prédicateur mettait le doigt, c'est-à-dire à chaque fois qu'il envoyait cette parole, la liberté, la loi de la liberté, vous savez, c'est déjà bizarre, hein. Qu'il y ait dans la même expression, loi et liberté. En général, quand on parle de loi, nous on voit contrainte. Quand on parle de liberté, on dit sans contrainte. Mais en fait, frères et sœurs, nous qui vivons en France, si nous sommes là ce matin et pas à la maison d'arrêt, c'est parce que nous sommes libres, oui ou non. Mais pourquoi nous sommes libres? C'est parce que nous n'avons pas enfreint la loi. La même loi qui nous rend libres ce matin, c'est la même loi si nous enfreignons seulement un seul de ces articles qui va nous envoyer où? À la maison d'arrêt. C'est pareil avec la parole de Dieu. Si tu négliges la parole de Dieu, Dieu te dit tu le négliges lui. La liberté est dans la loi. La condamnation est dans la loi, oui ou non? C'est la loi qui nous condamne, c'est la loi qui nous donne la liberté. C'est pour ça que Jacques dit la loi de la liberté. C'est pas la loi de Moïse, hein. C'est cette parole dont Jacques va parler. Il dira cette parole que Dieu a plantée et que vous devez recevoir dans votre cœur avec douceur. Je disais que le premier obstacle qui s'adresse à nous, c'est le péché. Lorsque nous vivons dans le péché, Isaïe nous dit que nous, il y a une muraille. Oh, vous allez me dire, mais Jésus est venu. Oui, il est venu. Ce n'est pas une condamnation. Il y a toujours une fenêtre. Mais seulement quand on vit dans le péché, on sait qu'on est dans une situation qui ne plaît pas à Dieu. Le mieux, c'est de s'en débarrasser tout de suite, frères et sœurs. C'est comme ça. Arrêtons de prier pour que nous ne péchions plus. Il n'y a rien de tel dans la Bible. Quand la femme prise en flagrant délit d'adultère est venue avec ses bourreaux devant Jésus, qu'est-ce que Jésus lui a dit à la fin? Il lui a dit, moi aussi je ne te condamne pas. Va et ne... Est-ce qu'il lui a dit, va prier? Non. Arrêtons de prier. Si tu as un mauvais caractère, tu vas prier jusqu'à ta mort. Ça ne va pas changer. Ça ne change pas. La prière ne change pas le caractère. Non. C'est pour ça que je vous disais en introduction, les gens veulent prier pour tout. Non. Il y a des clés dans la Bible qui nous donnent le succès, qui nous donnent la victoire. Dieu n'a pas dit à Josué, il faut que tu passes les nuits de prière, il faut que tu jeûnes. Il lui dit, non Josué, assure-toi d'avoir ma présence avec toi. Assure-toi d'obéir à ma parole, tu auras le succès. Tu auras une vie abondante pour toi-même et tu vas mener le pays, et tu vas mener le peuple dans le pays que je lui ai promis. C'est cela, il y a des clés. Il y a des clés. Dieu a tout pourvu. Si tu as un problème de sanctification, réfère-toi au sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous rend pur. Quelle est la prière que tu peux faire qui va dépasser l'œuvre que Jésus a faite? Quelle est la prière? Non, ça c'est un mensonge. Tu vas prier quoi pour dépasser l'œuvre que Christ a accomplie sur le bois de la croix? Aucune prière. Donc le péché. Et on va lire trois textes pour conclure. Voici ce que Jésus dit. Vous savez, c'est un texte qui fait partie de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et là, Jésus va arriver au chapitre 6. Il va commencer par parler de plusieurs choses, entre autres la prière. Il va parler, entre autres, des inquiétudes que nous pouvons avoir par rapport à notre vie quotidienne, des manques que nous pouvons avoir dans notre vie et qui peuvent susciter des inquiétudes. Jésus va parler de cela. Jésus va parler de la nourriture. Il va dire, regardez, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent pas dans les greniers. Mais regardez comment votre Père Céleste les nourrit. Et il va dire, est-ce que vous ne valez pas mieux que ces oiseaux? Et il va dire, pourquoi vous allez vous inquiéter du vêtement? Regardez l'herbe des champs. Eh bien, ça pousse, ça sèche, juste parce que c'est quelque chose qu'on va mettre au feu ensuite. Dieu dit, mais regardez, Jésus dit, regardez comment le Père s'en occupe. Il dit, même Salomon dans toute sa splendeur n'a pas connu la gloire que connaît l'herbe des champs. C'est quand même étonnant. Même Salomon, qui a fait des biens économiques quelque chose, de banal. La Bible nous dit que Salomon a fait de l'argent quelque chose de banal. L'argent est un bien économique. Ni toi ni moi ne pouvons fabriquer l'argent. C'est un bien économique. Et un bien économique est défini par sa rareté. Mais la Bible nous dit qu'il en a fait... Il a fait de l'argent un bien banal, au point que pour Salomon, l'argent en Jérusalem, c'était comme des pierres, des cailloux. Jésus dit même dans toute sa splendeur, et vous vous rappelez les paroles que Dieu a données à Salomon, il lui a dit, avant toi, il n'y aura jamais eu un roi qui aura ta gloire, et après toi, c'est la même chose. Donc Jésus dit même dans toute sa gloire, c'est pour ça qu'il ne parle pas de David, parce que la gloire de Salomon a été plus que celle de David. Même dans toute ta gloire, dans toute la gloire de Salomon, Jésus nous parle de toutes ces choses. Mais entre autres, il nous parle de quoi? Il dit, mais il faut choisir, soit tu choisis Dieu ou tu choisis maman. Il dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Et quand on parle de deux maîtres là, il ne s'agit pas seulement de servir maman. Tu ne peux pas te servir toi et servir Dieu en même temps. C'est impossible. Jésus parle de toutes ces choses. Et il va dire, là où est-on? Trésor, là aussi sera-t-on? C'est dans ce chapitre-là. Et là, il vient, il conclut. Il dit donc, recherchez premièrement, ou bien d'abord, le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela, donc ce que je viens de vous citer là, tout cela, le vêtement, quand il dit le vêtement, ça dit ta vie, ce dont tu as besoin pour être heureux, pour vivre une vie chrétienne abondante, une vie d'homme, d'enfant de Dieu, une vie abondante, une vie de succès, une vie réussie. Jésus te dit toutes ces choses. Si tu les mets, si tu les veux, il faut qu'à la première place, tu mettes quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Et le problème que nous avons, c'est que nous avons inversé cela. Nous prions pour nos besoins. Nous ne nous inquiétons pas de ce que Dieu pense. Nous ne nous inquiétons pas de la peine que Dieu a de voir ce monde ne plus être sauvé. Nous sommes en ce lieu. Nous venons jour après jour, semaine après semaine. Nous faisons ce que nous avons envie et nous disons, nous vivons la vie chrétienne. Dieu dit, non, mes enfants, la vie chrétienne, c'est plus que cela. Si tu mets mon royaume, si tu mets ma justice avant toute chose dans ta vie, tu verras que toutes les choses là vont te suivre. Elles vont t'accompagner. Et ce sont les principes, ce sont les clés. Et nous négligeons ces clés que Dieu nous donne. Nous disons, non, moi je veux faire comme j'ai envie, j'ai un problème. Comment nous faisons? Quelquefois nous ne venons pas au culte parce que, ah non, je suis fatigué. Ah oui, mais mon Dieu. Et non? Vous imaginez un peu? S'il fallait qu'on tienne compte de notre fatigue pour ne pas venir au culte. Oh, c'est sans condamnation. Je crois que ce matin, on serait peut-être une dizaine ou une quinzaine, je ne sais rien. Bien sûr qu'on sera toujours fatigué. Bien sûr qu'on aura toujours des coups de mou. Bien sûr qu'on aura toujours des moments difficiles. Mais ce ne sont pas des situations qui doivent nous empêcher de communier ni avec notre Seigneur, ni avec les frères et les sœurs. Dieu dit, mettez la priorité. Mon royaume, que mon règne soit manifesté à travers votre vie. Que ma justice soit manifestée. Comment tu te comportes au boulot? Comment? Si on allait interroger tes collègues, que diraient-ils de toi? Est-ce qu'ils diraient un bon témoignage de toi? Est-ce qu'ils diraient, nous sommes satisfaits, nous sommes tellement heureux de la voir, que le jour où elle s'en ira, nous serions en train de pleurer? Est-ce que c'est cela que les gens diront de toi? Eh bien, ils vont dire, oh là là, cette femme, elle est comme ça. Elle a un visage fermé. Hein. Quand elle arrive le matin, elle prend juste son stylo et commence à écrire. C'est à peine que vous esquissez un bonjour. Non. Vous croyez que le christianisme se vit ici? Ça, ici, c'est la comédie. Arrêtons. Le christianisme, c'est hors de ce mur. C'est là-bas. C'est là que les gens... La Bible dit que la création entière soupire après la révélation des fils de Dieu. C'est là-bas. C'est là. Quand Dieu voit comment nous réagissons avec ceux qui ne le connaissent pas encore, Dieu prend plaisir ou alors nous attristons son cœur. Il dit, voici mon enfant. Je suis fier. Comme Dieu a dit à Satan, tu vois Job, je suis fier de Job. C'est un homme intègre sur la terre. Je suis fier de lui. Satan lui dit, oh, attends, je vais le dépouiller un peu, on va voir s'il va rester intègre. Eh bien, Job est resté intègre malgré le dépouillement. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Que Dieu soit glorifié. Alors, mettons Dieu à la première place, le règne de Dieu et sa justice. Et la deuxième chose, c'est dans Jean. Jésus dit, nous devons demeurer en lui et que nos paroles demeurent en lui. Si souvent, c'est parce que nous nous détachons nous-mêmes de Jésus. Nous vivons une vie qui nous éloigne du Seigneur. Et Jésus dit, il faut que nous demeurions en lui, si nous voulons avoir cette vie abondante. Pourquoi? Parce que tout, vous avez remarqué que l'apôtre Paul nous a dit que nous sommes bénis en... Donc en dehors de Christ, nous n'avons plus la bénédiction de Dieu. C'est en lui que nous sommes bénis, pas en dehors de Christ. Et le dernier, c'est Jacques qui va nous le dire. Vous inquiétez pas, ce n'est pas Jacques Renaud. Ah ben il est là ce matin. Soumettez-vous donc à Dieu. Mais résistez au diable et il fuira loin d'eux. Jacques dit, bien évidemment, si on veut vivre une vie chrétienne abondante, il va falloir que l'on se soumette à qui? À Dieu. Et frères et sœurs, quand je parle de la vie chrétienne abondante, je ne suis pas dire que c'est une vie où il n'y aura pas de difficultés, non. Je vous l'ai dit en introduction, ce serait le mensonge. Mais malgré les difficultés, malgré les moments difficiles que nous pouvons connaître, lorsque nous nous enracinons dans ces quelques principes que nous avons vus ensemble ce matin, nous allons connaître une vie chrétienne abondante. Nous n'allons plus vivre une vie chrétienne sous forme de montagne russe. On est là, en haut dans la montagne, on est dans la vallée. Non, Dieu nous dit, restez là, ni dans la vallée, ni sur la montagne, mais vous restez entre les deux. Vous avez une vie équilibrée, vous avez une vie stable, vous avez une vie abondante, vous avez vos besoins qui sont pourvus parce que je suis en vous, parce que vous tenez compte de ce que je vous ai dit. La présence de Dieu, la parole de Dieu, s'appuyer sur le Saint-Esprit pour avoir un courage et une force qui viennent de lui. Et là, nous avons besoin, bien évidemment, de mettre Dieu à la première place, son règne et sa justice. Et toutes les choses dont nous avons besoin pour une vie abondante, elles vont nous accompagner. Nous avons besoin de demeurer en Christ et de prendre ses paroles au sérieux. Parce qu'il dit que si je demeure en vous et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Vous voyez, c'est une façon de dire, si vous êtes en harmonie avec moi, peu importe ce que vous allez avoir besoin, vous l'aurez. Et Jacques dit, il faut que nous soyons soumis à Dieu. Parce que sans la soumission, la Bible nous dit que Dieu va nous résister parce qu'il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Que Dieu soit béni.
On va partager le pain et le vin ensemble. Je vais demander aux personnes qui sont chargées de la distribution.